Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carifor-F des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi.
Bienvenue dans le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carifor-F, Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous allons découvrir un projet original. On n'a peut-être jamais abordé cette typologie de projet. Et on va découvrir tout cela en compagnie de Sophie Timmermann, cofondatrice de l'entreprise et start-up EdTech. Oriente-toi en un seul mot. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Oriente-toi, c'est une start-up EdTech qui développe un dispositif d'orientation qui, je cite, j'ai trouvé l'expression quelque part, est un concept ludique pour mieux se connaître et découvrir des métiers autrement. Est-ce juste ?
Oui, c'est bien ça, puisqu'on permet aux utilisateurs de jouer pour identifier leurs talents.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, Sophie, à votre sujet et au sujet d'Oriente-toi, c'est-à-dire l'origine de l'entreprise et l'origine, la genèse du projet?
Moi, je suis donc Sophie Timmermann, j'ai une expertise RH dans les domaines du numérique et dans l'accompagnement et le coaching à l'orientation scolaire et professionnelle. Et je me suis associée à Kevin Roussov, qui est lui data scientist, donc expert en intelligence artificielle. Et dans toute mon expérience d'accompagnement à l'orientation, j'ai toujours fait jouer notamment les jeunes pour les aider dans leur orientation. C'est par rapport à ça, en fait, donc c'est vraiment la genèse, on va dire, de l'entreprise. Par rapport donc à ce projet, en parlant avec Kevin autour d'un café, c'est là qu'est venue en effet cette idée de créer des jeux, mais en version numérique, pour aider à identifier les talents. Et grâce aux talents identifiés, par rapport à la personnalité de l'individu, on match avec des secteurs d'activité et des métiers pour trouver là où l'individu peut s'épanouir.
Est-ce que c'est là justement l'union d'un côté du jeu dont vous avez parlé, qui vous correspond et qui serait donc uni aux données, aux data, correspondant donc plutôt à l'apport qui est celui de votre associé?
Alors en effet, mon associé, c'est lui qui va vraiment récolter en tout cas les millions de données qui sont faites quand on joue. Et on analyse vraiment non pas le résultat à un jeu, mais vraiment la façon de jouer. Nous, on part souvent de cette phrase de Platon qui est « on peut en savoir plus sur quelqu'un en une heure de conversation, en une heure de jeu ».
Oui, c'est ça.
On peut en savoir plus en une heure de jeu qu'en une heure de conversation. Et c'est vraiment de ça qu'on part pour pouvoir récolter en fait les données et vraiment la façon de jouer de l'utilisateur.
D'accord, on n'est pas, pour celles et ceux qui penseraient immédiatement au serious game quand on dit jeu, on n'est pas précisément dans cette typologie-là ou cette finalité-là.
Alors, on n'est pas dans la finalité, en effet. On est un petit peu dans cet esprit de serious game en vue de récolter vraiment des data pour pouvoir analyser la façon dont on va jouer. Par exemple, la façon dont on va se comporter face à une erreur dans un jeu. Est-ce qu'on va être plus rapide, plus lent? Ça fait partie des éléments qui nous caractérisent et qui permettent de déterminer un certain nombre d'éléments sur notre personnalité et sur notre façon de réagir.
D'accord. Alors, on voit un petit peu quelle est la vocation. On va juste peut-être revenir un tout petit peu en arrière, s'intéresser à la cible des jeux. Qui sont les joueurs ?
Alors, les joueurs sont nos utilisateurs. À la base, ce projet, il a été fait principalement pour les plus jeunes, donc de la classe de 5e, donc on va dire 11-12 ans, jusqu'à fin d'études supérieures pour ceux qui vont jusque-là, donc 25-30 ans. Ça, c'était la première cible quand on a créé. Donc là, on était en 2017 quand on a lancé le premier prototype. Et depuis, on l'a fait évoluer et ça fonctionne, j'ai envie de dire, presque à tout âge. Alors, pas avant la classe de 5e, puisque quand on est encore très jeune, on a encore des rêves de métier qui ne sont pas forcément en correspondance avec vraiment les attraits qui vont être importants par la suite. Mais en tout cas, dès l'âge de la 5e jusqu'à la retraite, voire après, il n'y a pas de limite d'âge aujourd'hui, puisqu'on a un peu plus de 53 000 utilisateurs aujourd'hui et on travaille aussi avec des publics en réinsertion.
D'accord. Alors j'ai une question qui n'est pas une question piège. Alors on va prendre le temps d'essayer d'y répondre. J'ai un adolescent de bientôt 17 ans qui est en première. On a fait récemment avec lui le Mondial des métiers. On va faire le Salon de l'étudiant. Et si il se connectait au dispositif, donc Orient-toi, comment est-ce que ça se passerait concrètement? C'est-à-dire dès la première minute, au moment où il se crée un compte peut-être, quel est son parcours dans le dispositif?
Donc il va être invité en effet à se connecter, à donner sa date de naissance, puisqu'en fonction de notre âge, on a des façons de jouer qui sont différentes. Et ça aussi, l'analyse de l'intelligence artificielle et des algorithmes le prend en compte. Donc une fois qu'il sera inscrit, on va aussi l'inviter, s'il le souhaite, à connecter ses parents. Puisque dans l'orientation, on sait qu'on n'est pas seul et qu'il est important aussi d'être accompagné et d'avoir notamment ses parents qui, quand ils le peuvent, peuvent également nous aider dans ce parcours. Donc une fois qu'il aura passé cette phase d'inscription, il va pouvoir jouer, il va être invité à jouer à 3 mini-jeux. Chaque mini-jeu est assez court, il dure 1 minute 30. Une fois qu'il a joué à ces 3 mini-jeux, il va sans doute pas forcément aimer les 3 mini-jeux. C'est rare qu'on ait des individus qui apprécient les 3. Mais il faut jouer aux 3 pour avoir un maximum d'éléments qui sont pris en compte pour déterminer les talents de l'individu. Ensuite, justement, il va avoir cette vision de ses badges de talent, donc quelques-uns des badges qui vont pouvoir être identifiés par la suite, mais déjà en 5 minutes, il va avoir une première base avec quelques badges de talent qui sont là aussi basés sur de la pédagogie positive, puisqu'on ne va donner que des éléments qui sont perçus comme positifs par nos utilisateurs. Ensuite, il va avoir différentes propositions de secteurs d'activité et de métiers. Donc en général, dans notre solution, on propose, et ce qui est optimal, c'est d'en mettre 3. Donc il va avoir 3 propositions sur lesquelles il va pouvoir se positionner. Il va pouvoir découvrir donc les contenus, secteurs d'activité, contexte professionnel ou métier qui ont été matchés avec sa personnalité, donc dans lequel, a priori, la personnalité détectée peut s'épanouir. Et c'est là où il va être invité donc, à découvrir ces contenus, soit en fiche, soit en vidéo. La vidéo marche évidemment pas mal sur cette tranche d'âge. Et ensuite, il va pouvoir donner son positionnement, c'est-à-dire indiquer « ça me correspond, ça ne me correspond pas », mais il va aussi pouvoir indiquer le « je ne sais pas ». Et ce « je ne sais pas » très humain, très complexe à comprendre pour différents algorithmes d'intelligence artificielle. Nous, on a des algorithmes qui s'appellent des algorithmes flous en intelligence artificielle qui permettent de prendre en compte cette réponse pour pouvoir être de plus en plus pertinent par la suite. Une fois qu'il a eu donc ce qui s'est positionné, il va pouvoir revenir à son profil et là, selon son besoin, selon son positionnement, il va être invité, s'il le souhaite, à rejouer. Il peut aussi répondre à des quiz ou il peut aller plus loin et connaître les parcours de formation vers un métier, par exemple, etc. Et à lui, chaque individu va pouvoir évoluer à son rythme dans la solution.
Je vais ramener la corde ou la couverture, pardon, au papa que je suis, le rôle des parents là-dedans.
Alors les parents, une fois que le jeune en fait s'est positionné, donc a fait un premier cycle dans la solution, les parents reçoivent un mail pour leur permettre, eux, d'avoir aussi une application qui leur permet de voir les talents qui ont été identifiés de leur enfant et de voir aussi les propositions, métiers, secteurs d'activité, de pouvoir en prendre connaissance, puisque là aussi, entre la vision d'un parent sur un métier et ce que le jeune vient de découvrir, il y a parfois des grandes différences. L'idée, c'était de donner le même contenu aux jeunes, aux parents et également leurs professeurs quand ils sont aussi accompagnés dans la solution.
C'est extrêmement intéressant, ça a l'air très très riche et ça éveille plein de curiosités. Par exemple, les jeux. À quoi ressemble un jeu ?
Ce sont 3 jeux très différents. Il y a un jeu qui vient, c'est un jeu des métiers cachés. Je vous inviterai à jouer pour que vous puissiez justement les découvrir. Il y a un autre jeu qui est vraiment un jeu qui vient des neurosciences et qui est le jeu des bonnes couleurs. Et un autre jeu qui est plutôt là lié, on va dire, au repérage dans l'espace, qui est un parcours piégé. Donc ce sont vraiment 3 mini-jeux très très différents au démarrage. Et ensuite, on a d'autres jeux qui viennent une fois qu'on a fait un premier cycle. Et les jeux, donc pour pouvoir permettre de déterminer les talents grâce à la façon de jouer, on match avec différents modèles de personnalité qui ont été validés. Donc le modèle de Bartle, qui est un modèle de profilage des joueurs. On utilise le MBTI, qui là sert plus aussi dans le cadre des bilans de compétences. Et on utilise donc le RIASEC, le modèle de Holland, qui est présent dans toutes les fiches et notamment raccroché pour les fiches Code ROM Pôle emploi.
D'accord. J'ai cru comprendre que par l'intermédiaire des jeux, on va délivrer des badges de talent aux joueurs, donc on va l'appeler joueur. Ces badges de talent, il y a quoi comme talent ? Alors on va prendre des exemples là aussi très concrets.
On va avoir notre capacité d'adaptabilité, par exemple, qui fait partie d'un des talents qui est identifié. On va avoir notre capacité de concentration.
Est-ce que si je dis soft skills, ça fait un peu gros mot ou c'est clairement ça ?
Alors, ça en fait partie, sachant que les soft skills, ce sont en effet nos compétences, et notamment nos compétences transversales. Nous, on va aller, dans l'analyse qu'on en fait, on va aller un peu plus loin que seulement une compétence, mais vraiment une compétence ralliée au plaisir qu'on peut en donner. Et donc, c'est là où on va plutôt dire des talents et liés à la personnalité qu'uniquement des soft skills.
D'accord. Et c'était là le complément que j'avais, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des recherches de talents et d'identification de traits de personnalité.
Est-ce que c'est ça ? C'est ça. C'est vraiment lié à des traits de personnalité. L'idée, c'était vraiment de trouver la personnalité d'un individu pour savoir quel est le plaisir qu'il va avoir dans un métier, dans un secteur d'activité, donc son plaisir à se lever chaque matin pour aller réaliser cette activité, notamment son activité professionnelle. Je prends un exemple qui peut peut-être être un peu plus parlant. On va prendre l'exemple d'un développeur informatique. Les compétences soft skills, hard skills, etc. Toutes ces compétences d'un développeur informatique, on les connaît, elles sont parfaitement identifiées, elles ont été parfaitement travaillées. Par contre, est-ce que ce développeur informatique, une fois qu'il a obtenu son diplôme, est-ce que c'est quelqu'un qui va s'épanouir dans une start-up ou c'est quelqu'un qui va s'épanouir au sein d'un grand groupe ou au sein d'une entreprise de service ? Là, c'est sa personnalité qui va vraiment faire la différence pour savoir s'il va être heureux dans son activité professionnelle, au-delà des compétences technique qu'il va mettre en place dans le cadre de son métier.
Petite question poil à gratter. On parle de talent, on parle de capacité, on parle de compétences. Est-ce qu'on parle de la même chose ou y a-t-il des subtilités que l'algorithme pourrait prendre en considération ?
Alors l'algorithme, en effet, prend en compte énormément de considérations dans ce qu'il calcule. C'est là où nous, on va vraiment aller appeler ça des talents, parce qu'on peut aussi appeler ça aptitude pour aussi. Certains. En fait, on va avoir plein de mots qui vont le caractériser, mais la différence, c'est qu'on peut avoir des compétences et être parfaitement capable de faire un métier, mais on peut ne pas s'y épanouir. Et nous, ce qu'on va aller chercher, et ce que nos algorithmes vont vraiment aller chercher, et c'est là où on dit, en effet, ce sont plutôt des traits de personnalité, et qu'on a appelé talent pour simplifier, hein, mais des traits de personnalité pour vraiment chercher là où l'individu va s'épanouir dans son activité. Et c'est là où on va un peu plus loin, en effet, que uniquement des compétences.
Alors, je vais chercher peut-être une ou deux failles à cette description qui envoie du rêve, hein, si je peux dire ça comme ça, parce que ça a l'air, mais parfait. En s'appuyant sur le jeu pour identifier des talents, des personnalités, est-ce qu'on tient là un système qui est infaillible ou est-ce que parce qu'on s'intéresse au jeu, il peut y avoir des failles ? Je m'explique. Je ne suis pas attiré principalement par jeu. Admettons que je ne sois pas attiré par le jeu et que j'y aille un peu à reculons. Est-ce que justement le fait d'avoir cette approche par le jeu pourrait fausser ou non les résultats que je pourrais moi obtenir ?
Alors oui, ça pourrait fausser. Et donc nous, on invite souvent les individus à jouer dans différents cadres. Alors je m'explique, notre solution, elle est utilisée dans le cadre scolaire, hein, elle est utilisée en classe, au collège, au lycée, avec des professeurs qui vont des fois inviter l'élève à se positionner sur des façons de jouer ou sur des façons de se positionner sur des métiers qui sont pas le vrai ressenti, on va dire, en tout cas la réponse sincère de l'élève. Et ça peut influer. Donc l'environnement dans lequel on joue peut influer sur les résultats. L'avantage et la correction, en tout cas, qu'on a réussi à faire aujourd'hui dans la prise en compte de nos algorithmes, alors quand un utilisateur joue une seule fois dans un seul cadre, c'est complexe. Par contre, quand il va se reconnecter de chez lui, on va nous capter si en effet il est en train de jouer plutôt sur un ordinateur, ce qui arrive souvent dans le cadre scolaire, hein, puisqu'ils sont souvent sur ordinateur pour l'utiliser. Quand il va se reconnecter, mais là depuis un smartphone ou depuis une tablette, depuis la maison, on va sentir, enfin, et l'algorithme va être capable de capter qu'il est en train de jouer de façon différente, en fonction des heures. On demande aussi au démarrage de la solution son humeur, son niveau d'énergie, puisque là aussi, ça peut être important et c'est pris en compte dans le cadre du calcul de la façon de jouer. Donc, il va y avoir vraiment tous ces environnements qui vont être pris en compte. compte et où l'algorithme a justement regardé en tout cas les différences dans les différents moments de la journée et différentes façons de se connecter. Là aussi, quand un élève se connecte en même temps que toute sa classe, enfin voilà, l'algorithme est capable de comprendre qu'il est en train de l'utiliser souvent sous l'œil, on va dire, d'un encadrant. Tandis que quand il est à la maison et quand il se reconnecte là tous à des heures différentes, on va aussi pouvoir voir qu'il est connecté de façon privée et il va avoir des façons de jouer différentes. On a aussi des élèves qui se positionnent de façon sur certains métiers de façon différente quand ils sont dans le cadre scolaire ou quand ils se reconnectent à la maison. On voit aussi, et c'est là où l'interaction avec les parents elle est intéressante, des fois on se rend compte en effet qu'il y a les connexions des parents qui se font et quelques minutes après ou même en même temps, on a le jeune qui se connecte et qui des fois change d'avis sur un métier. Et là, alors, on n'est pas présent hein, pour voir la scène, mais quand on fait nos enquêtes, on se rend compte que bah oui, il y a des connexions qui se font en même temps et que l'échange, justement, ça a permis l'échange entre les parents et le jeune pour pouvoir rectifier un avis, changer d'avis et pouvoir en tout cas en discuter pour pouvoir avancer dans la construction des parcours d'orientation.
On a pris connaissance du dispositif en l'observant sous l'angle du jeune homme dont j'ai parlé, qui était cet adolescent, qui était mon fils. Et si maintenant on s'intéresse un petit peu plus au public du C2RP, puisque ce podcast leur est dédié, si on s'intéresse à des publics en reconversion ou déjà actifs ou en recherche d'emploi, comment la plateforme donc peut leur être, votre solution pardon, peut leur être destinée?
Alors cette plateforme justement elle est aussi connectée avec des professionnels, donc les professionnels des centres d'accompagnement qui sont dans les missions locales ou dans les structures de Pôle emploi par exemple et dans les structures d'insertion. Et là, là aussi il y a le rôle de l'accompagnant pour pouvoir aider la personne dans le cadre de son parcours. Et donc là, dans le cadre en effet des publics adultes en reconversion, là aussi il va pouvoir jouer en session collective lors d'accompagnement, mais il va pouvoir se reconnecter là aussi de chez lui à un autre moment et on va aussi comparer ses façons d'utiliser la solution aux deux moments. Et le conseiller, la personne qui l'accompagne, va toujours avoir aussi un regard sur les talents qui ont été identifiés et qui évoluent à chaque fois que la personne va rejouer. Et les métiers qu'il a vus et aussi les propositions justement d'emploi, hein, puisqu'on n'a pas été jusque-là, mais en tout cas dans le cadre justement des adultes, on a des propositions d'emploi ou de formation du territoire qui sont liées et qui permettent d'être encore plus précis pour pouvoir construire les parcours d'orientation, d'insertion, les parcours de retour vers l'emploi ou de retour vers la formation pour les adultes accompagnés.
Et si on prend désormais le contingent d'un peu plus de 50 000 utilisateurs à ce jour, est-ce que vous avez des indicateurs à nous proposer?
Alors en tout cas, on a sur nos 53 000 utilisateurs, on va dire dans les trois premières sessions de jeu, on a un peu plus de 70% des utilisateurs qui trouvent un métier qui leur correspond. En gros, en un quart d'heure d'utilisation de la plateforme, ce qui est assez important et assez intéressant. Et dans le cadre de l'accompagnement justement à l'emploi, au métier, à l'orientation. C'est aussi intéressant de voir même les personnes qui ont mis « je ne sais pas » ou « j'hésite » pour les adultes et qui justement hésitent sur des métiers et ça permet d'ouvrir la discussion avec l'ensemble des accompagnateurs pour pouvoir comprendre ce j'hésite humain et l'aider en tout cas ouvrir à la discussion. Donc notre plateforme elle est vraiment dédiée aux accompagnateurs pour pouvoir avoir un outil numérique qui va les aider dans leur mission.
Très bien, donc que je sois un jeune élève ou étudiant ou que je sois à proximité du monde professionnel ou que je sois dans le monde professionnel, je vais accomplir mes trois jeux et obtenir un certain nombre de résultats. Qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est-à-dire comment puis-je espérer un retour, une mise en relation?
Alors on a aussi tout un réseau et donc l'utilisateur dans le « pour aller plus loin ». Au moment où il le souhaite, va pouvoir aussi faire appel au réseau des orientateurs qui sont, comme vous et moi, des professionnels qui seraient en capacité d'expliquer leur métier, donc de faire des témoignages métiers, mais également de pouvoir accueillir, par exemple, quelqu'un en insertion professionnelle sur un parcours de stage de 5 jours pour lui faire découvrir son métier avant de s'orienter justement directement dans un parcours de formation qui peut des fois être long et complexe et qui peut décevoir la personne si elle ne s'est pas préparée à cette insertion professionnelle au départ.
On en sait désormais grandement à propos de cette solution. on aimerait connaître l'avenir.
Alors l'avenir, c'est aussi de travailler avec chaque personne qui a des besoins particuliers, puisqu'on veut vraiment prendre en compte la singularité de chaque personne. Et donc on s'ouvre aussi aux élèves porteurs de troubles 10, mais ce ne sont pas que les élèves, puisque les adultes aussi sont des fois pas détectés, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup de détections dans le système scolaire pour les nouvelles générations. Mais on a aussi des professionnels qui ont des troubles 10 et qui sont des fois en réorientation. Il est donc important de pouvoir prendre en compte ces troubles. Et également toute personne porteur d'un handicap, quel qu'il soit, pour pouvoir l'aider à trouver le parcours en accord avec sa personnalité et non pas uniquement en accord avec ses contraintes, on va dire, liées au handicap.
Ça, c'est en développement.
C'est en cours de développement et surtout de recherche pour l'instant, puisque... Aujourd'hui, tout se base sur de l'intelligence artificielle, donc la détection d'énormément de données. Là, dans le cadre de ces problématiques, on va avoir moins de données. Et donc, on est en train aussi de faire évoluer nos algorithmes pour pouvoir le prendre en compte et vraiment lier à de la recherche pour pouvoir accompagner au mieux ce public.
En somme, c'est un enjeu d'inclusion.
Tout à fait. Aujourd'hui, Cap Oriente-toi, c'est vraiment inclure chaque personne dans l'ensemble des dispositifs et les accompagner par rapport à leur personnalité et toute leur singularité. Et c'est vraiment que c'est comme ça que ça a été pensé pour pouvoir travailler sur l'inclusion dans le monde ordinaire ou dans les organismes qui accueillent ces publics.
Sophie, moi je suis convaincue, mais maintenant, où est-ce que je peux vous trouver ?
Donc vous pouvez nous retrouver toutes les informations sur notre site web, puisqu'actuellement, en effet, on est encore en phase sur cette partie-là de Cap Oriente-toi, de recherche et développement, recherche de financement également et recherche de partenariat. On travaille vraiment en itération et en collaboration avec le terrain, puisqu'on prototype aussi au fur et à mesure, en fonction de l'ensemble des besoins, avec nos partenaires de terrain.
On vous suivra attentivement. On va publier également les liens d'accès, ou en tout cas toutes les coordonnées qui vont permettre de vous suivre, de vous contacter, voire de créer notre compte. Et si vous pouvez nous le dire de vive voix, on en sera d'autant plus heureux.
Donc, vous pouvez aller sur www.orientetoi, donc O-R-I-E-N-T-O-I, en un mot, .fr, pour retrouver dans nos actualités toutes les informations, nous suivre et tester également, découvrir notre plateforme, notre solution.
Il y a une version de démonstration.
C'est ça, vous avez accès à tout un test que vous allez pouvoir faire en tant qu'individu et également un lien de démonstration pour vraiment voir l'ensemble de la plateforme avec toute la partie justement tableau de bord pour les accompagnateurs.
Eh bien, on va se connecter tout de suite.
Parfait.
Eh bien, en tout cas, ici au C2RP, nous, on est convaincus et je crois qu'en Haute-France, nous n'avons pas été les seuls.
Oui, en effet, on a été finaliste donc du prix Norbert Ségard en juin dernier, et donc on était très fiers d'être parmi les finalistes de ce prix qui était réalisé aussi avec l'association EdTech Hauts-de-France.
Eh bien, je crois que l'on touche désormais au terme du podcast. Il me reste, Sophie, à vous remercier de votre participation.
Merci à vous.
À remercier nos auditeurs. Vous retrouverez cet épisode aussi bien sur le site du C2RP que sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcasts. À très bientôt.
Merci.
Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.